www.libradio.org. La radio qui vient à ta rencontre.
Alors bonsoir à toutes et à tous. Cette conférence a lieu dans le cadre d'une campagne, de la campagne aux élections nationales. Vous le savez pas, dans 25 jours exactement, nous votons au Parlement fédéral. Et disons que depuis quelques semaines, c'est fou, mais tous les partis se sont découverts, tous, hein, sans exception, vert et féministe. C'est merveilleux. Donc, même l'UDC est féministe, même le PLR est vert, le Parti libéral radical. Bon. Donc on est dans une situation en ce moment, dans le cadre de ces élections fédérales, où on tente de taper sur un certain nombre de clous. Puisque nous sommes un mouvement, hein, Solidarité, qui sommes en lien avec le mouvement social, les mouvements sociaux, en dialogue avec les revendications des mouvements sociaux, toujours, y compris, hein, avec la grève des femmes, grève féministe, et évidemment avec tous les mouvements de jeunes pour le climat. Nous les avons appuyés et nous avons soif de dialoguer avec chacun et chacune d'entre elles. Alors cette soirée est sous le logo de la liste pour une écologie anticapitaliste, hein, qui va être présentée. Je pense que c'est la seule liste de toutes les listes qui seront présentées qui contient le mot anticapitaliste dans son intitulé. Et puis justement, hein, la question qui était posée ce soir à Christine Poupin, c'était de parler du monde du travail, hein, qui est toujours quelque chose qu'un certain nombre de mouvements, y compris de mouvements et de partis, essayent de scinder. Hein, ce qui est bon pour un certain nombre d'entre nous ne serait pas bon dans le cadre du monde du travail. Alors voilà, je suis très heureuse d'avoir le plaisir d'accueillir Christine. Donc Christine Poupin est porte-parole du NPA en France, elle est militante syndicale, elle est évidemment féministe, on pourrait même dire écoféministe.
Voilà,
elle est écoféministe et je suis ravie de lui laisser la parole.
Bien, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Alors l'intitulé, hein, c'est les défis du monde du travail face au changement climatique, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, qu'on a un petit problème. Quand même qu'on a un petit problème avec la place du mouvement ouvrier, du mouvement syndical dans ces mobilisations-là. Donc peut-être pour démarrer, je vais quand même dire des choses que tout le monde connaît, mais qu'on a un peu du mal à faire prendre en compte réellement, qui est l'ampleur d'une catastrophe qui n'est pas une catastrophe qui est devant nous, la catastrophe climatique, mais qui est quelque chose qui est ici, maintenant, agissant. Et c'est vrai que les choses se sont un peu modifiées au cours des derniers mois, je dirais peut-être des deux derniers étés, qui ont été quand même particulièrement visibles, où là, les phénomènes climatiques extrêmes, dont on dit qu'ils vont se multiplier avec le changement climatique, eh bien, ils ont eu lieu là, sous nos yeux. Et puis avec des choses extrêmement visibles, spectaculaires. Bon, alors je pense évidemment aux incendies qui ravagent la forêt amazonienne, mais quelque chose qui sans doute encore peut-être frappe plus les esprits, qui sont les incendies au Groenland, etc. Bon. Et puis il y a eu immédiatement ces vagues de chaleur extrêmes, ces sécheresses extrêmes. Il n'est pas tombé une goutte de pluie, en tout cas pour ce qui concerne la France, depuis plus d'un mois. Et puis tout d'un coup, il se met à pleuvoir dans le sud de l'Espagne, et on a comme ça des trombes d'eau, bon, comme on avait eu l'été dernier dans les Cévennes en France. Donc voilà, c'est là, c'est sous nos yeux. Et puis je pense qu'il faut rappeler, quelquefois on sépare, c'est qu'en même temps, ces phénomènes-là sont des accélérateurs extraordinaires de la crise sociale, des injustices, des inégalités sociales. Bon, évidemment, c'est rien presque, à côté de ce qu'on connaîtra sur quelque chose qui, dans les effets du réchauffement climatique, sera un phénomène plus long, mais sans doute encore plus massif, qui est tout ce qui tourne autour de la question de l'élévation du niveau des océans, puisque là, on aura des zones entières qui sont menacées par la montée des océans, et qui sont en général des zones extrêmement peuplées, dont on sait, il suffit de voir ce qui s'est passé avec Katrina, que les plus pauvres, que les populations racisées, etc., sont évidemment celles qui ont le plus de mal à se protéger, qui sont directement concernées. Donc là, les rapports de l'ONU sont tout à fait clairs. Pour la troisième année consécutive, la faim a augmenté dans le monde. C'est un quart de la population qui est menacée d'une pénurie d'eau. Et puis, là encore, on dit que ça va aggraver les conflits. Mais les conflits, ils sont là, d'ores et déjà. On dénombre plus de 2500 conflits dans le monde autour des questions d'accès aux énergies fossiles, à l'eau, à la terre, à la nourriture. Donc, alors, dans notre courant, on dit souvent socialisme ou barbarie, éco-socialisme ou barbarie, mais c'est pas juste une figure, quoi. C'est ici et c'est maintenant. Alors ça, c'est ce qu'on voit. On a eu aussi, depuis une année, un certain nombre d'éléments, de rapports scientifiques, de groupements scientifiques. On pourrait revenir sur comment tout ça fonctionne, quel crédit, quel biais, etc., il y a autour de ces rapports, mais en tout cas, les choses sont quand même suffisamment établies, et ce qu'on peut constater, c'est qu'en général, les rapports ne surestiment pas, mais ont plutôt tendance à sous-estimer, puisque chaque fois qu'ils nous donnent des éléments en termes de fourchette, le rapport d'après dit « Ah ben en fait, c'est la partie haute de la fourchette qu'il fallait prendre », etc. Et c'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Donc on a eu le rapport de l'IPBES sur la question de la biodiversité, avec l'effondrement de la biodiversité, hein, c'est quand même 1 million d'espèces menacées sur les 8 millions existantes. Donc on est là dans quelque chose qu'on peut appeler une extinction massive des espèces. La dernière fois que ça a eu lieu, c'était il y a quand même longtemps, et c'était les dinosaures. Bon, donc c'est de quelque chose de cette ampleur-là dont on parle, mais avec des rapports de temps qui n'ont strictement rien à voir avec ce que la Terre a pu connaître par le passé. Alors, celui sur lequel, le rapport sur lequel je vais peut-être plus insister, parce que ça a un intérêt direct pour nous aujourd'hui, pour comment et dans quel délai et dans quelle proportion on doit agir, c'est le rapport spécial du GIEC qui est sorti en octobre dernier. En général, on n'attend pas énormément de bonnes choses des COP, bon, de la COP21, pas plus, de ce qu'on a appelé donc l'accord de Paris, mais l'accord de Paris avait réussi à faire inscrire, en plus de « il faut rester en dessous des 2 degrés », la mobilisation climat et les populations, les premières concernées, c'est-à-dire très souvent quand même les îles directement menacées par la montée des océans, avaient réussi à faire rajouter... Enfin, pour nous, ce serait quand même mieux si on arrivait à rester en dessous d'1,5 degré d'augmentation de la température moyenne de la Terre. Bon, et ça avait été inscrit dans les conclusions, dans l'accord de Paris. Bon. L'intérêt principal de cette chose-là, c'est que derrière, il y a une demande au GIEC de travailler sur cette affaire-là. C'est-à-dire quelle serait effectivement la différence entre plus 2 degrés ou plus 1,5 degré, en sachant qu'aujourd'hui, on est quand même à une augmentation d'1 degré de la température moyenne de la Terre. On parle toujours en moyenne, ce qui ne veut pas dire forcément grand-chose, parce qu'évidemment, au pôle, c'est 3 fois plus rapide. Mais comme les conséquences de ce qui se passe au pôle sont beaucoup plus importantes, on voit tout de suite le problème. Enfin, toujours est-il qu'il y a ce travail qui a été fait sur la différence entre 1,5 degré et 2 degrés d'augmentation. Et là, le bilan est sans appel de tous les points de vue, du point de vue des conséquences sociales, des conséquences sur les populations, de l'élévation du niveau de la terre, du niveau des mers, des pertes de biodiversité, etc. Bon. Et par ailleurs, on sait que la limite des 2 degrés, en fait, contrairement à ce qu'on s'était un peu rabâché, est loin d'être une limite sûre. C'est-à-dire que 2 degrés, eh ben, il peut se passer un certain nombre de choses qui peuvent interagir avec d'autres et provoquer un basculement. Je pense, là encore, particulièrement, c'est pour ça que je parlais des pôles tout à l'heure, à la question de la fonte des calottes glaciaires et de la façon dont, à la fois, ça va moins renvoyer les rayons solaires, donc plus... amener davantage de chaleur, permettre à venir à plus de chaleur de venir sur la Terre, et puis aussi provoquer des phénomènes de cumul, avec y compris la possibilité de libération de grandes quantités de méthane, sans compter tous ceux qui sont en embuscade et qui attendent l'opportunité merveilleuse de voir se dégager une nouvelle route par le nord, grâce à la fonte des glaciers, ce qui permet d'exploiter, de faire encore plus de transport international, grand pourvoyeur en gaz à effet de serre, et d'aller trouver du nouveau pétrole, grand pourvoyeur en gaz à effet de serre. Donc on voit comment les choses peuvent effectivement se cumuler. Donc ce qui est établi, c'est que c'est 1,5 degré qu'il faut viser. J'insiste un petit peu là-dessus, parce que souvent on entend « oui, bah, tu ne te rends pas compte, déjà 2 degrés ». Telles que les choses sont parties, on ne va pas y arriver. Alors, si tu te mets à nous parler d'un degré et demi, non, mais là, c'est... Sauf qu'à un moment, il faut dire la vérité. Ouais, et comme disait quelqu'un de célèbre, seule la vérité est révolutionnaire. Mais là, en l'occurrence, c'est pas... Voilà, c'est sérieusement... C'est sérieux, quoi. Bon. Et donc, les travaux du GIEC, pour schématiser, ont donné, en gros, quatre grands scénarios, pour aller vite. Alors, il y en a un qui dit, bon, de toute façon... On va pas y arriver, donc on va dépasser, mais vous inquiétez pas, on reviendra en dessous après. Bon, sauf que là, sur le climat, ça marche pas. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, on peut enclencher des phénomènes et des boucles de rétroaction positive, c'est-à-dire des trucs, en gros, plus ça chauffe, pour dire les choses dans un langage compréhensible. Et donc l'idée de « j'ai dépassé, excusez-moi, mais je vais me rattraper » et je, bon, ça peut pas fonctionner. Donc il faut déjà éliminer ce quatrième scénario. Donc il reste les trois. Un des problèmes parmi les scénarios qui restent, alors qui était déjà présent dans le quatrième qu'on a éliminé, c'est que on nous dit il faut réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre. Et comme le diable gît dans les détails, là c'est pas un détail, le petit mot net, il veut dire que en fait on a le droit de compter les émissions positives, c'est-à-dire ce qui a effectivement démis comme CO2 et autres gaz à effet de serre, mais qu'on peut aussi compter les émissions négatives. Alors, émissions négatives, c'est un peu louche comme ça, mais c'est l'idée qu'on a les moyens d'aller retirer du CO2 de l'atmosphère et que ce qui compte à l'arrivée, c'est le résultat de l'addition. Bon. Le problème, c'est les moyens qui sont mis en œuvre pour faire ça. Et que ce qui est promu... Alors, il y a eu plein d'idées un peu dangereuses émises par ce qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire ces gens qui pensent que, enfin, globalement, on aura toujours les moyens, on trouvera toujours des solutions. La science et la technique sont tellement puissantes que... Il y aura moyen de moyenner et qu'on va s'arranger avec l'affaire parce qu'on finira toujours par trouver une bonne solution. Certains disent si, y compris si on se débarrasse du capitalisme, la science sera plus forte, elle pourra faire... Non, non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. Alors là, le moyen qui est privilégié par le GIEC, ils en ont éliminé certains qui étaient vraiment encore plus dingues, mais celui-là apparaît plus réaliste, mais il ne l'est pas tellement, c'est... la bioénergie avec capture et séquestration du carbone. Ça fait BECS en acronyme. Ça part d'une idée qui est vraie, que les végétaux, en poussant, absorbent du CO2. C'est absolument vrai. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un problème, la déforestation, puisque ça fait moins de végétaux qui vont absorber le CO2. Donc, mais c'est pas de ça qu'il est question. Il est question de produire des végétaux pour produire de la biomasse. On parle plus d'arbres, de choses réelles. On parle de biomasse, c'est-à-dire de la nature réduite à son utilisation, qui est de la cramer, en gros, pour fabriquer de l'énergie. Vous allez me dire, parce que vous avez suivi, quand on brûle des arbres, on dégage du CO2. Que nenni, ces gens-là capturent le CO2 à la sortie. Voilà, ce qui est déjà un problème. Et ensuite, une fois qu'ils l'ont capturé, bon, on est là, ils l'enfouissent sous terre et on a gagné. Voilà, c'est ça la solution. Bon, Le problème, c'est que si, pour, en gros, à la louche, se débarrasser d'une moitié des émissions qu'on a en trop, il faudrait consacrer à peu près la surface de l'Inde à la culture de végétaux pour produire de la biomasse, pour pouvoir la brûler, pour pouvoir en capturer ensuite le CO2, pour pouvoir l'enfouir sous terre. Autant dire, bon, outre le fait que ça a peu de chances de fonctionner, que de tous les points de vue, puisqu'on a par ailleurs des points de vue des problèmes globaux de dégradation des sols, de dégradation des rendements agricoles, de perte de capacité de terre cultivable, donc on est là en quelque chose qui va multiplier les problèmes et qu'au lieu de résoudre un problème, on va en ajouter d'autres. Ce qui veut dire que le seul scénario qui nous reste possible, c'est celui qui prévoit de réduire drastiquement les émissions, et pas les émissions nettes, mais les émissions en vrai. Donc, en vrai, de réduire la consommation et l'utilisation des énergies fossiles. L'objectif, là, c'est une réduction de 58% avant 2030, mais nette, hein, en vrai, quoi. Bon, le problème, c'est que ces énergies fossiles, c'est 80% de l'énergie utilisée dans le monde, et que ces émissions d'énergie fossile, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre. L'autre partie, c'est la déforestation, c'est le problème, hein. Et que 85% des besoins en énergie sont couverts par ces énergies fossiles. Donc on voit bien que ce qu'il faut faire à l'arrivée, c'est pas juste une transition énergétique. Bon, parce que quand les capitalistes nous parlent de transition énergétique, en fait, leur idée, c'est on rajoute des énergies vertes, des énergies renouvelables, à tout le reste qui reste identique. On peut réduire un tout petit peu, mais on garde le nucléaire, puisqu'ils considèrent que le nucléaire est une énergie propre. Et puis, on continue avec les fossiles, et puis on rajoute un petit peu. Il n'y a qu'à voir les publicités. Alors, bon, chez nous, c'est Engie, EDF, Total. Enfin, bon, il doit y avoir les mêmes chez vous. Plus vert que tu meurs, mais c'est pas ça. On a besoin d'une vraie révolution énergétique, c'est-à-dire d'avoir un système qui passe 100% aux énergies renouvelables. Donc ça, c'est une partie du problème. La deuxième partie du problème, qui n'est pas négligeable et qui explique beaucoup des autres blocages qu'on a, c'est que toutes les installations qui sont liées à ces énergies fossiles, c'est 1/5 du PIB mondial. Autant dire que c'est une masse absolument colossale de capitaux, auxquels il faut rajouter les réserves. Puisque pour les capitalistes, les réserves, c'est aussi du capital. C'est la promesse de profit à venir. Donc, décider de ne pas utiliser les énergies fossiles, donc de ne plus utiliser ni les installations, ni les réserves, c'est une destruction nette de capital. Autant dire que ça, vu du point de vue des capitalistes, je dirais juste le truc qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent faire beaucoup de choses, se déguiser avec des arbres partout, etc. Mais ça, c'est pas possible. Donc, il y a deux conclusions qui s'imposent une fois qu'on a dit tout ça. Donc, désolé pour l'aspect un peu technique de ce début-là. C'est un, que la solution, elle suppose un niveau d'affrontement extrêmement important, donc un niveau de mobilisation extrêmement important, donc la capacité à mobiliser l'immense partie de la quasi-totalité de la population qui a intérêt à ça, mais de la convaincre de ça, et en particulier de convaincre ce qu'on appelle la classe ouvrière, enfin l'ensemble des classes populaires, bon, et qu'on a besoin de ce rapport de force-là. Ça, c'est une des conclusions. La deuxième conclusion, elle est sur un autre terrain, mais elle est aussi indispensable. C'est que la question, elle n'est pas de faire la même chose que ce qu'on faisait avant avec des énergies renouvelables à la place des énergies fossiles et du nucléaire. On ne produira pas autant d'énergies renouvelables que ce gaspillage énorme d'énergie qu'on a aujourd'hui avec les énergies fossiles et le nucléaire. Donc la question de la réduction de la consommation énergétique, avec toujours cette idée que quand même l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas, bon. La question de la réduction de la production énergétique, elle est incontournable. Donc la réduction de la production matérielle et des transports sont aussi incontournables. Et là encore, il faut dire la vérité. Voilà, il n'y aura pas de production illimitée des énergies renouvelables, parce que ça pose plein d'autres problèmes d'utilisation des ressources, etc. Et que ce n'est pas vrai qu'on peut dire qu'on peut, sans limite, bon, ce qui est une des caractéristiques, je boirais bien un peu d'eau, de la production capitaliste, de produire sans limite. Il y a des limites et il faut effectivement réduire. Donc on voit bien, une fois qu'on a posé ces deux exigences-là, que quelque part on a un truc qui frotte quand même. Que ce n'est pas exactement la façon de penser globalement du mouvement ouvrier et du mouvement syndical. Et pourtant, la classe ouvrière, qui occupe une position absolument décisive dans l'industrie et dans les services, on a besoin de sa participation et de sa participation active. Sinon, il n'y aura pas de transformation antiproductiviste de l'ensemble de l'économie. Voilà. C'est pour ça que cette question de la position, ce qu'on appelle, on l'appelle comme on veut, le monde du travail, la classe ouvrière, le prolétariat. Bon, on appelle comme on veut, mais la question de l'engagement de cette partie essentielle de la population dans la mobilisation est une question absolument essentielle. Bon, et on a un problème. Voilà, on a un problème parce que dans les circonstances normales, dans la vie normale, eh ben cette classe ouvrière, ces travailleurs, ces salariés, ils dépendent directement du fonctionnement du capitalisme. Ils dépendent directement de leur emploi pour vivre. C'est d'ailleurs ça qui les caractérise comme salariés. Bon, et donc, d'une certaine manière, l'aliénation joue à plein dans le sens de leur attachement, de leur enrôlement à l'intérieur du fonctionnement du système et de la production capitaliste telle qu'elle est. Et c'est ça, fondamentalement. Pas parce que les ouvriers, ils sont bêtes, pas parce qu'ils pensent qu'à la fin de mois au lieu de penser à la fin du monde, comme dit Macron chez nous, etc. Mais c'est ça qui explique fondamentalement ces difficultés de mobilisation qu'on a. Et c'est à ça qu'on a besoin de s'attaquer, avec une difficulté supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, l'offensive néolibérale est une offensive de chômage, de précarisation, etc. Que, y compris, il y a un certain nombre de ces attaques qui se drapent dans le voile de l'écologie, voilà, qui fait que d'autant plus ça rend les choses compliquées, et que y compris dans le mouvement syndical, par exemple, on va avoir des positions négationnistes, pas négationnistes dans le même sens que le climato-négationnisme de Trump. Bon, c'est pas, évidemment, c'est pas les mêmes intérêts, c'est pas la même chose, mais quand même, si les capitalistes parlent de ça et que ça nous retombe sur la figure, peut-être qu'en fait c'est pas vrai. D'une certaine manière, ça nous arrangerait que ce soit pas vrai, parce que quand même c'est compliqué, quoi. Bon. Donc voilà. Bon. Donc comment on attrape cette question-là? Alors, je pense qu'il y a une partie qui est une partie relativement évidente, mais difficile dans le rapport de force qu'on connaît, qui est d'abord la bagarre sur tout ce qui est la défense, l'augmentation des droits sociaux, des droits démocratiques des salariés. Évidemment, tout ce qui peut permettre de desserrer l'étau de la menace du chômage, du licenciement, de la précarisation, etc., est absolument essentiel. Donc toutes les bagarres qui tournent autour de ça, de la protection contre les licenciements, et au-delà de ça, de la possibilité du droit, par exemple, pour les salariés, de proposer, en cas d'arrêt d'une activité, de proposer une activité alternative, une reconversion sous leur contrôle. Je pense par exemple, évidemment il faut produire moins de voitures, mais on pourrait imaginer une bagarre contre la fermeture de l'industrie, d'un secteur de l'industrie automobile, qui en général a reçu quand même énormément d'argent public, une bagarre pour la récupération de cet argent public et la possibilité avec ça que les salariés puissent redémarrer une production qui soit une production utile. Bon, alors, On peut discuter. Alors, il y a des secteurs pour lesquels c'est possible. Il y a des secteurs pour lesquels c'est pas possible. Moi, je dois bien vous l'avouer, je travaille dans l'industrie chimique qui produit des engrais chimiques. Il faut arrêter cette production-là. Et on peut rien faire d'autre avec les installations. C'est-à-dire un machin qui est fait pour fabriquer de l'ammoniac, de l'acide nitrique, machin, etc. Ça ne peut faire que ça. Et ça peut pas faire autre chose. Bon. Donc, il faut l'arrêter. Et donc, la question de la protection des salariés en cas de fermeture de ce type d'entreprise, de maintien des droits, maintien du salaire, jusqu'à la possibilité de retrouver un travail ou d'arriver à l'âge de la retraite. Cette question de garantie des droits est absolument essentielle. L'autre dimension, je crois, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est arrivé au licenciement, si syndicalement et politiquement dans l'entreprise on n'a pas mené les bagarres avant, les choses sont encore plus compliquées. Toute la question de droit d'organisation, droit de contrôle des salariés, en particulier autour des questions de santé au travail, autour des questions de durabilité des produits, d'efficacité, de pollution, etc. Je pense que c'est des choses qui sont absolument essentielles. Et là-dessus, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Il y a un certain nombre de choses qui ont progressé. J'en veux pour preuve un peu par la négative, puisque une des instances qui a été attaquée en France le plus par la dernière... L'avant-dernière et la dernière contre-réforme sur la question du droit du travail concernaient précisément les comités hygiène, sécurité, conditions de travail, dans lesquels, quand même, une série de syndicalistes et deux syndicats avaient appris à faire ce travail et à prendre en compte cette dimension, ce qui est un peu... j'allais dire nouveau dans le mouvement ouvrier, pas tout à fait, à ses origines, le mouvement ouvrier a supporté ces questions-là, a longtemps été totalement sous une influence très très productiviste et renoue avec la capacité à poser ces questions-là. Je pense que dans la pratique syndicale, je pense que c'est une question qui est extrêmement importante. Puis je crois que ça va avec aussi toute une série d'autres combats qui ne sont pas strictement des combats syndicaux, mais qui sont aussi tout ce qui permet de lever les inquiétudes sur la vie. C'est-à-dire cette idée que si je perds mon emploi, je perds mon salaire, mais je perds aussi tout, y compris les moyens de vie élémentaires. Je pense que tous les combats qu'on peut mener autour des questions de protection sociale, mais aussi d'accès aux services publics, de gratuité des services publics, c'est-à-dire cette idée que l'essentiel doit être fourni de manière gratuite, les transports gratuits, les accès à l'eau, à l'électricité pour les besoins de base, etc. Je pense que c'est c'est-à-dire tous ces combats qui permettent de desserrer les taux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre des combats qui permettent de desserrer les taux sur la possibilité de vivre des salariés et un combat pour l'écologie. Au contraire, je pense que tout ce qui permet d'aller dans ce sens-là, outre le fait que dans la mobilisation qui permet d'aller dans ce sens-là, on peut poser d'autres questions, parce qu'au moment où les gens se mobilisent, on peut poser plus de questions intéressantes que quand on a le nez dans le guidon au boulot. Bon. Mais ça, c'est une partie de la chose. Derrière, je crois que la question qui nous est posée, c'est réellement celle de la reconstruction d'un mouvement ouvrier, à la fois politique et syndical, qui soit effectivement capable de faire avancer ces idées qui soient à la fois anticapitalistes, mais aussi antiproductivistes, là où c'est sans doute le plus difficile de le poser, c'est-à-dire au sein même des entreprises. Et je pense que je vais essayer de détailler sur, me semble-t-il, quatre grands domaines qui sont directement concernés, qui sont les domaines essentiels dans la discussion d'un projet politique, qui sont la question de la propriété, la question de la production, la question du travail et la question de la démocratie. Alors, sur la question de la propriété, évidemment, les questions de socialisation dans des secteurs comme les secteurs de l'énergie est une question totalement incontournable. C'est-à-dire, tant qu'on est dans une logique de profit, ce qu'il emporte, c'est plus je produis, plus je fais de profit, donc je vais continuer à produire. Et demander à Total de faire des économies ou de réduire la production, je sais pas, c'est juste inimaginable. Donc effectivement, la question de la socialisation de ces secteurs-là et de la possibilité de reprendre la main, y compris pour pouvoir envisager la sortie des énergies fossiles, la sortie du nucléaire et le basculement vers des énergies renouvelables, est absolument incontournable, de la même façon que la question de la socialisation du secteur bancaire, du secteur du crédit, parce que... Les énergies renouvelables, pour ne parler que de la question énergétique, ça ne va pas se faire comme ça. Il y a de très gros investissements à faire pour basculer le système énergétique qu'il faut totalement transformer. Et puis il y a toute une série d'autres investissements dont on a besoin sur l'isolement des logements, etc. Bon. Et puis la troisième chose, toujours autour des questions... Troisième et quatrième chose, toujours autour des questions de propriété, c'est toute la question de la déprivatisation, de l'abolition de la propriété privée des ressources naturelles. Bon, le capitalisme a gagné de plus en plus de terrain dans sa logique comme ça d'expansion nécessaire à l'infini, bon, et à marchandiser de plus en plus de secteurs et de plus en plus y compris de ressources naturelles. Bon, je pense au sol, à l'eau, aux forêts, mais aussi je pense qu'il faut intégrer là-dedans toutes les ressources du savoir autour de la question du brevetage du vivant, de l'accaparement des savoirs traditionnels, etc. Bon, sur lesquels on pourrait éventuellement revenir. Et puis là, alors c'est mitoyen avec d'autres questions, mais je pense qu'il faut réellement qu'on arrive à se poser le problème, la partie facile, je dirais, enfin facile entre guillemets, qui demande le rapport de force, qui est l'expropriation, mais ça laisse ouvert derrière la question de la propriété ou pas de la propriété, et de pouvoir éventuellement d'inventer d'autres formes qui seraient des formes qui auraient plus à voir avec ce qu'on appelle le commun. Alors on parle beaucoup des communs, etc., mais moi j'ai envie d'insister davantage sur une lecture du commun, qui est une lecture plus peut-être qui remet sur le devant de la scène, je dirais, la politique, la délibération, le choix, le fait que rien de tout ça n'est naturel ou ne s'impose, que sur tout ça, il y a des décisions, des choix de société, des décisions humaines, de la délibération, éventuellement de la dispute, du désaccord, du dissensus. Bon. Mais je rejoins plutôt celles et ceux qui défendent l'idée qu'il n'y a pas de commun naturel, un peu... biblique entre guillemets, qui serait l'eau, c'est évidemment un commun. Oui, l'eau, c'est évidemment un commun. Mais on peut considérer que plein d'autres choses, de services, etc., doivent être des communs. Et à partir du moment où on en use en commun et on décide des règles en commun, pour moi, ça devient du commun avec, je crois, deux choses essentielles qui sont un droit d'usage, qu'on pourrait plutôt substituer au droit de propriété, mais un droit d'usage qui s'accompagne dans toute une série de cas de manière absolument indispensable du devoir d'en prendre soin. C'est typique sur la question de la terre, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sols sont tellement dégradés que tout droit d'usage de la terre implique un devoir d'en prendre soin, puisqu'on a besoin de reconstruire quasiment à peu près partout la couche vivante du sol. Et donc, il ne peut pas s'imaginer un usage délibéré, réfléchi et commun de la terre qui ne prennent pas cette dimension-là en compte. Donc ça, c'est autour de la question de la propriété, mais il me semble que cette question de changement des formes de propriété, en fait, elle n'a d'intérêt que si elle permet précisément cette question d'une gestion démocratique. Donc c'est pour ça que je préfère la notion de commun. Et puis en même temps, une profonde transformation de la production elle-même. Sur tout l'appareil de production, la question, elle n'est pas simplement la question de la propriété, de à qui ça appartient. C'est-à-dire qu'on a un appareil productif dont on ne peut pas dire simplement « Bon, ben, les capitalistes, poussez-vous de là, et nous, on s'y met, et vous allez voir ce que vous allez voir. » Non. l'appareil productif tel qu'il est construit, il n'est pas neutre. Il a été construit pour produire des marchandises, pour faire du profit. Et c'est, il a été fabriqué pour ça, fait pour ça, pensé pour ça, organisé pour ça. Bon, et donc, le faire fonctionner autrement pour une autre finalité de la production, ça demande une modification profonde. Bon, l'exemple du nucléaire, vous allez me dire, c'est exagéré, le nucléaire. Mais c'est pas si exagéré que ça. Parce qu'y compris la question de la propriété, hein, si on prend la sœur aînée du nucléaire qui est l'État français, c'était une propriété publique pendant très très longtemps. Alors c'est vrai que les choses se sont modifiées en passant au privé. Mais au-delà de ça, le choix de l'énergie nucléaire, au-delà des dangers, du problème du risque d'accident, des problèmes de déchets, etc., c'est aussi le choix d'une extrême centralisation. Bon, et qui dit extrême centralisation dit aussi extrême sécurisation, sécuritarisation, c'est pas français, mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas d'installation nucléaire qui ne suppose pas un quadrillage policier, une surveillance policière, une centralisation, etc. Le nucléaire autogéré, juste, ça ne peut pas exister. Bon. Ça, c'est un exemple extrême, mais je pense que c'est généralisable à toute une série de secteurs de production. Bon, on parle rarement, on inclut rarement l'agriculture, mais l'agriculture, il y a évidemment des questions de propriété, etc., parce que c'est ce qui est posé avec l'appropriation par l'agro-industrie. Mais on ne veut pas produire nous-mêmes de manière autogérée les saloperies qui sont produites par l'agriculture industrielle. Là, on voit bien qu'il faut quelque chose qui soit radicalement transformé dans le rapport à la terre, dans le rapport aux semences, dans le rapport aux cultures, dans la localisation, etc., etc. Bon, et donc, c'est une modification complète de l'organisation de la production, y compris en assumant la nécessité de supprimer une série de productions qui sont des productions de production inutiles. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais au-delà des productions inutiles, je pense que tout le champ, par exemple, alors, la suppression de la publicité, déjà, ça nous ferait des vacances. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça crée des besoins inutiles. Mais au-delà de ça, le gaspillage, c'est aussi tout ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Bon. Le fait de se réapproprier ça, je pense, ça m'amènera au sujet suivant, ça change aussi le rapport au travail. Je me souviens d'une bagarre quand ils ont fermé une série de sites de production de quelque chose qui est venu Moulinex, qui s'appelait Seb avant, qui produit du petit électroménager. Bon, vous savez, typiquement, le truc, c'est garanti 2 ans, et ben, à 20 mois, le machin tombe en panne. C'est soudé de partout, vous ne pouvez rien changer, vous ne pouvez rien réparer. Et je me souviens d'interviews d'ouvrières qui avaient vu la production se modifier et qui exprimaient leur souffrance de fabriquer cette merde, quoi. Ce truc dont ils savent que ça va tomber en panne, que c'est pas réparable, que les gens vont pas être contents, et que donc on travaille pas bien. Je crois que cette dimension-là, elle est très, 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 très importante. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui parle directement à celles et ceux qui travaillent, à celles et ceux qui produisent. Bon. Donc ça, c'est une dimension, puisque mon troisième point, c'était la question du travail. Cette question de ce qu'on produit, de comment on le produit, du contrôle qu'on peut avoir là-dessus, est une dimension qui est absolument essentielle et qui est valable dans l'ensemble des secteurs de la production, puisque on nous parle de stress. Alors après, maintenant, ils nous font des trucs de qualité de vie au travail dans les entreprises, des cellules bonheur au travail, etc. Ça exprime juste une chose qu'on peut constater quasiment tous les jours, c'est-à-dire nombre de personnes avec qui on discute qui ne supportent plus leur boulot, mais juste parce que leur boulot les fait souffrir, ou parce que dans leur boulot, ils sentent qu'ils font souffrir celles et ceux auxquels ils s'adressent, celles et ceux dont ils sont censés prendre soin. Ça, c'est vrai. Bon, là, il y a une grève qui dure depuis plusieurs mois maintenant aux urgences chez nous, mais c'est vrai dans l'ensemble de la santé, mais c'est vrai dans des établissements d'accueil pour les personnes âgées, c'est vrai sur tout le personnel qui travaille à Pôle emploi. Pôle emploi, c'est le service qui accueille les chômeurs, les demandeurs d'emploi, etc. Il y a un taux d'arrêt de travail, de gens qui craquent, de suicides au travail, etc., absolument colossal. Bon. Donc cette dimension de la qualité du travail qu'on fait, de critique, justement, alors nous, on va dire dans des termes savants, mais oui, ça a une incidence sur comment... C'est pas la même chose de travailler pour produire des marchandises ou pour produire ce qu'on peut appeler des valeurs d'usage, c'est-à-dire des choses qui vont effectivement être utiles, dont on se préoccupe de savoir qu'elles sont effectivement utiles, commodes, qu'elles consomment le moins possible d'énergie, qu'on va pouvoir les réparer, qu'éventuellement elles soient belles même. Pourquoi pas, soyons fous, allez, bon... voilà, ce n'est pas la même chose. Et je pense que notre projet de transformation, si on veut qu'il puisse effectivement parler et être le fruit de l'ensemble de la classe ouvrière, du prolétariat, etc., je pense qu'il faut prendre en compte cette dimension-là et parler effectivement du travail et pas considérer que c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est comme ça le boulot. De toute façon, c'est chiant. Donc, la seule horizon, en gros, c'est de travailler moins. Mais le temps qu'on y est, bon, non. Je pense qu'il faut pas prendre les choses comme ça. Il n'empêche qu'il faut parler de la question de la réduction du temps de massif, du temps de travail, de la réduction collective du temps de travail, parce que la réduction générale du temps de travail, il y en a, hein, avec le chômage, le temps partiel imposé, en particulier aux femmes, etc. Bon, mais c'est pas de ça qu'on cause. Pas d'une réduction collective du temps de travail, bon, avec le maintien du salaire, avec les embauches correspondantes, etc., etc. C'est évidemment pour moi une revendication essentielle qui devrait être au cœur de l'activité et d'une activité commune du mouvement pour le climat, par exemple, et du mouvement ouvrier. Là, on commencerait à causer de la même chose. On commencerait à tisser vraiment des convergences qui ressemblent, qui soient réelles. Bon, avec tous les autres avantages qu'ont la réduction du temps de travail en termes de du temps pour faire autre chose, pour participer à la vie politique, sociale, etc. Bon, mais je voulais insister quand même sur. C'est vrai que c'est une question essentielle dans la sphère de la production, hein, qui relève directement du rapport de force entre capital et travail, puisque si on a travaillé moins en étant payé pareil, on voit bien que quelque part il va falloir aller le chercher, quoi, hein, qu'il y aura de l'affrontement autour de ça. Mais je voulais insister sur une dimension, c'est que quand on parle. Du travail, il faut se dire qu'en dehors du travail salarié, certes, il y a du temps libre, mais pas que, qu'il y a aussi du travail invisible, gratuit, et que donc, pour certaines, il y a beaucoup moins de temps libre, et qu'il y a cette dimension du travail qu'on appelle le travail de reproduction, bon, parce que voilà, les travailleurs produisent, font la production, mais qui produit les travailleurs, qui entretient les travailleurs, bon, et c'est ce travail-là qui est pour beaucoup un travail invisible, un travail souvent gratuit, fait dans l'immense majorité par les femmes. J'ai pas le temps de donner les chiffres parce que c'est trop long, sur lesquels quand même le déplacement du partage se fait, j'allais dire à la vitesse des glaciers, non, beaucoup plus. Parce que les glaciers maintenant bougent très vite, donc très doucement, on va dire. Donc, et qu'y compris quand ça bouge, c'est intéressant de regarder dans le détail ce qui bouge. C'est-à-dire que les tâches qui sont effectivement partagées ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que les femmes gardent quand même l'immense majorité des travaux, le truc bien chiant, bien répétitif, de tous les jours, etc. Par contre, le partage a un peu bougé sur des choses plus intéressante, plus valorisante, que ce soit dans la partie soit aux enfants, un truc un peu épanouissant, c'est important, voilà. Mais et puis parce qu'on rentre aussi là-dedans le bricolage et le jardinage, par exemple. Alors évidemment, bon, à l'arrivée, on a l'impression que ça bouge. Donc quelquefois, il faut faire attention aux chiffres qui bougent, ils bougent pas tant que ça. Enfin bref. Donc ce travail-là, il est absolument essentiel, ben, juste au maintien, à la production, à la reproduction et au maintien et au, la prise de soin de l'ensemble de la vie. Bon, évidemment, de notre point de vue, c'est extrêmement important puisque c'est une dimension essentielle de la vie. Du point de vue des capitalistes aussi, hein, parce que eux, c'est la question de la reproduction de la force de travail. Donc ça leur est pas exactement indifférent de savoir dans quelles conditions ça va se reproduire. Et donc j'en veux pour preuve les nombreuses attaques qu'il y a sur ce terrain-là. C'est-à-dire que quand ça peut être gratuit, être invisible, etc., plutôt qu'être réalisé sur, par des services publics, ben évidemment c'est toujours ça de gagner. Accessoirement, ça peut être réalisé dans le cadre marchand, auquel cas c'est aussi ça de gagner, et on voit, je pense, par exemple, au scandale de ce qu'on appelle l'or gris en France, qui est tout ce secteur d'accueil des personnes âgées, etc., dans lesquels on a là des gros groupes capitalistes qui ont mis la main là-dessus pour la plus grande souffrance des salariés, eux, parce que c'est leur grande majorité, et des personnes qui sont accueillies. C'est aussi dans la marchandisation une certaine division internationale du travail, hein, puisqu'on a malgré tout, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé dans la société. C'est vrai que dans certaines couches de la société, il y a un accès des hommes et des femmes à des tâches salariées plus intéressantes, à des postes de responsabilité, etc. Mais une partie de ça, en fait, fait que les tâches de reproduction, les tâches de soins, elles vont être reportées sur des travailleuses domestiques qui souvent sont en plus des travailleuses migrantes. Bon, et là on se retrouve à quelque chose qui ne remet absolument pas en cause la division sexiste du travail, mais qui rajoute une dimension raciste et néocoloniale ou coloniale d'exploitation et de surexploitation de ces femmes migrantes. Donc voilà, cette question de la prise en compte du travail, de l'ensemble du travail, pour moi, est une question indispensable. On ne peut pas parler de réduction du temps de travail sans envisager cette diminution, cette question-là, qui doit prendre en compte la visibilisation de ce travail, puisque bon, les féministes ont quand même beaucoup mis en évidence le lien qu'il y avait entre l'invisibilité de ce travail-là et le fait qu'il soit attribué aux femmes, bon, en général au motif qu'elles sont faites pour ça, elles le font depuis toute petite et quelque part ça doit être dans les gènes qu'elles fassent ça. Et d'ailleurs ça justifie qu'on les paye, que quand c'est dans du travail salarié, on les paye pas trop cher non plus, puisque c'est pas de la qualification, c'est un truc, elles savent faire ça toute petite, donc on va pas les payer pour ça quand même. Vous allez me dire quel rapport ça a avec la question du climat, etc. Je pense que quand on est amené à se poser la question de quelle production, de qu'est-ce qui est utile, de qu'est-ce qui est inutile, remettre sur le devant de la scène la centralité de ce travail de soins au sens large est absolument indispensable, puisque là on est effectivement dans des choses qui ont besoin là du coup de croître, hein, parce que j'ai pu apparaître décroissante comme ça. C'est plus compliqué que ça. Il y a des choses qui doivent décroître, qui sont totalement inutiles, qui doivent voir disparaître, mais il y a effectivement tout un secteur qui doit être socialisé, qui doit être mixte et qui doit reprendre toute sa place centrale. Et ça, c'est une vraie révolution de la façon de penser qu'est-ce que c'est que la production et qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui est utile effectivement. Voilà. Changer de travail, je l'ai dit. La dernière chose, peut-être quand même pour finir, parce qu'il faut, hein, il faut arrêter, je vais vous dire juste deux mots sur les questions de démocratie qui, me semble-t-il, doivent être entremêlées avec tout ça. Je l'ai dit un petit peu avec la question des communs, mais cette idée d'une démocratie qui ne s'arrête pas à la porte des entreprises, mais qui rentre dans pas simplement enfin, l'autogestion au sens de la gestion économique de l'entreprise, mais aussi d'une forme de démocratie du travail, de délibération du travail, de redonner un sens politique à cette question-là, bon, et qui doit s'articuler effectivement avec le fait de reprendre la main sur les grandes décisions, sur les grands choix. Donc on est une articulation entre cette démocratie de production, on peut dire, et puis des démocraties plus territoriales, etc., d'auto-organisation à ce niveau-là, mais qui oblige à penser une démocratie et un débat politique et démocratique très nettement élargi et qui ne soit pas simplement des grands choix globaux, mais réellement une discussion en permanence avec une idée de réintroduire, de dénaturaliser le capitalisme d'une certaine manière et de réintroduire le fait que ça se discute. Ça se discute. Et en particulier sur beaucoup de gens qui ont travaillé sur les questions de souffrance au travail insistent là-dessus, sur le fait que le travail, ça se discute. C'est une activité humaine qui exige de la démocratie qui se fait dans un cadre collectif et autour duquel on doit pouvoir décider, délibérer, choisir. Bon, voilà, c'était un peu lourde sur cet aspect-là, mais c'est souvent, je pense, une dimension qu'on sous-estime, mais qui est absolument indissociable de la participation pleine et entière à, disons, la classe ouvrière, à un processus de transformation radical et profond et total de la société. Voilà, peut-être pour finir, parce que en général la difficulté c'est quand même d'accord, mais tout ça est quand même très très loin de la réalité aujourd'hui. Je pense que, alors, malgré toutes les difficultés, on a des raisons d'être optimiste. Je trouve que la conjugaison de l'émergence, en plus dans une génération nouvelle, puisque c'est des mobilisations qui sont extrêmement jeunes, pour l'instant, c'est bon. Il y a des ponts qui se font, mais ils sont encore petits. Mais à la fois d'une mobilisation féministe et en même temps d'une mobilisation pour le climat indique que le terrain de la lutte, il est plus simplement ce qu'on avait un peu l'habitude de considérer, c'est-à-dire en gros l'affrontement capital, travail, salarié, avec au cœur, voilà, il y a et les questions de reproduction et les questions de soutenabilité, c'est vraiment, mais de prise en considération les limites finies et l'état de la planète et sa santé, etc., qui s'invitent dans le rapport de force, qui s'invitent dans le débat public. Et du coup, l'optimisme, quand même, c'est que du coup, ça élargit sensiblement les alliances nécessaires, mais aussi possibles, puisque la contradiction, ce n'est pas simplement le capital contre le travail, pour aller vite, mais le capital contre la vie elle-même, dans toutes ses dimensions. Voilà. Et je pense que ça veut dire que nous, on soit capable de poser aussi les choses de cette façon-là. Bon, En rompant un peu peut-être avec une idée souvent répétée, mais qui n'est pas une idée de Marx, que le capital, que le travail est la source de toute richesse. Non, le travail n'est pas la source de toute richesse, la terre aussi, et il faut rajouter à ça l'ensemble du travail accompli dans la reproduction. Et je pense qu'une fois qu'on a ça en tête et qu'on regarde le monde tel qu'il est, les luttes telles qu'elles sont en train de se développer, et que peut-être on se décale un petit peu par rapport à des lunettes plus anciennes, il y a quand même des raisons d'espérer. Je ne dis pas que l'écosocialisme est pour demain, mais peut-être après. Voilà. Merci.